Cécile Bara.
Bonjour. 2 milliards 600 millions de personnes, soit plus du tiers de l'humanité, n'ont pas accès à des sanitaires décents. En Afrique, en Asie et même dans certains pays d'Europe, avoir des toilettes est un luxe. Pourtant, c'est un véritable enjeu de santé publique, de bien-être social et de dignité humaine. Quelle est vraiment la situation sur le terrain? Quelles sont les conséquences pour les populations et les solutions? Assez simple, vous allez l'entendre, à mettre en place. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. En studio avec moi, Andrea Matusakova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de la coalition Eau, qui regroupe 29 ONG françaises actives dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. En face de vous, le docteur Loïc Mongeot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine tropicale et président de l'ONG EAST, ça veut dire Eau, Agriculture, Santé en milieu tropical. Vous intervenez en Afrique et en Asie et vous êtes membre de l'Académie de l'eau. Par téléphone, trois intervenants. Idrissa Doucouré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût, il s'appelle le CREPA, et vous intervenez dans 17 pays en Afrique et bientôt dans plus de pays, hein, puisque vous avez l'intention de vous développer.
Oui, tout à fait.
À vos côtés, enfin, indirectement, hein, parce que c'est aussi à Ouagadougou, au Burkina Faso, juste Herman Nancy, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vous occupez de l'association Eau Vive, qui travaille donc sur l'assainissement au Burkina Faso. Et par téléphone, toujours Thierry Imbert, secrétaire général de Solidarité Eau Europe, bonjour.
Bonjour.
À vous, c'est une ONG qui intervient notamment en Europe de l'Est. Vous êtes d'ailleurs au téléphone depuis Chișinău, la capitale de la Moldavie. Alors, selon l'Organisation Mondiale des Toilettes, hein, et oui, ça existe, une personne va aux toilettes en moyenne 6 fois par jour, soit 2500 fois par an. C'est donc un acte plus que quotidien. Et quand il n'y a pas ou très peu d'installations, la situation est vite catastrophique, comme à Port-Gentil, capitale économique du Gabon, où 90% des 150 000 habitants utilisent les rares toilettes publiques.
Voilà nos toilettes. Nos toilettes d'Ali
j'ai rempli même à tribord. Il n'y a même plus une place là où il y a un petit morceau de caca qui peut vraiment rentrer. Il n'y a pas de place.
Mais vous l'utilisez encore?
Mais il y a certaines personnes, quand ils sont encablés, surtout les femmes, nous les hommes, on s'en fout. Hein. On est obligé de faire la cascade, d'aller dans les poubelles, par-ci, par-là.
Et quand il pleut?
Mais quand il pleut, mais ça s'inonde ici. La chiotte flotte un peu par-ci, par-là et tout, vous voyez un peu.
Il n'y a pas de toilette. Les gens font souvent des selles dans des sachets, après ils viennent jeter dans le canal.
La galère ici.
La galère totale.
C'est un reportage d'Yves Laurent Goma diffusé hier dans C'est pas du vent. C'est un extrait et vous pouvez réécouter l'intégrale de ce reportage sur le site www.rfi.fr. Juste Herman Nanty, est-ce que c'est aussi la galère totale, hein, comme on l'entendait dans le reportage, au Burkina Faso, à Ouagadougou par exemple, la capitale, ça se passe comment?
La situation est déjà nettement meilleure. Enfin, globalement, le Burkina compte 15 millions d'habitants, dont 13 500 000 n'ont pas accès à des équipements adéquats d'assainissement. Donc ça vous donne une petite idée, on est dans le même ordre de chiffres que la situation que vous venez de présenter au Gabon, donc c'est vraiment une grande galère. Et pour décrire peut-être la situation à Ouaga, c'est vrai, il y a une illustration intéressante. Entre votre domicile et votre bureau le matin, si vous avez un besoin urgent, il n'y a aucune solution.
Et donc, comment les gens se débrouillent?
La situation est relative, hein, qu'on soit en milieu rural ou dans les grandes villes. En milieu rural, la grande pratique reste à la défécation en plein air. Et à une certaine époque, il y avait encore un peu de végétation pour avoir de l'intimité. Là, il n'y en a plus. Il faut attendre la nuit pour avoir un minimum d'intimité.
Idrissa Doucouré, vous qui dirigez le Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût, vous êtes intervenu donc dans 17 pays, on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pays africains qui sortent du lot où la situation est un peu meilleure?
Oui, enfin, je pense que, disons, que l'assainissement, c'est l'un des objectifs du millénaire qui est le plus en retard.
Alors, c'est l'objectif. Donc, il faut, excusez-moi, je vous coupe la parole, mais il faut rappeler, hein, aux auditeurs que donc c'est l'un des objectifs du millénaire pour le développement, c'est-à-dire réduire de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes qui n'ont pas accès à un assainissement décent. Alors, vous dites, en Afrique, c'est très en retard.
C'est l'objectif le plus en retard par rapport à tout autre objectif. Et la situation aujourd'hui, en tout cas, nous indique qu'il y a plus de 500 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à ces toilettes. Il est dit que si nous continuons avec ce même rythme, on atteindrait ces objectifs qui étaient de réduire la moitié de ceux qui n'ont pas dans un siècle, ce qui est inacceptable.
Thierry Imbert, je disais, vous travaillez sur l'Europe de l'Est, et là aussi, la situation est extrêmement difficile.
Elle est surtout difficile, je dirais, en zone rurale. Quand les zones urbaines disposent quand même d'installations, d'infrastructures, d'assainissement modernes, type comme on le connaît en Europe de l'Ouest, c'est surtout les zones rurales où l'absence d'infrastructures complètes et centralisées fait que dans certains pays comme la Moldavie, vous avez 50% de personnes qui doivent se débrouiller avec des latrines qui se trouvent dans leur jardin.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de... Dans les écoles, par exemple, dès qu'on sort de la grande capitale Chișinău, en Moldavie, il n'y a pas de toilette ?
Ben, chez eux, une toilette est formée de latrines, comme on connaît. Une petite hutte sur béton pour les écoles qui avaient un peu d'argent il y a 20 ans en arrière. En bois pour ceux qui sont plus pauvres. Et il y a 6 trous d'un côté, 6 trous de l'autre. Et vous avez des conditions très rudimentaires qui... C'est un peu comme une latrine indécente.
Et est-ce que les gens chez eux ont des toilettes ?
C'est le même scénario. Absence d'eau, absence d'alimentation en eau fait qu'il n'y a pas de toilette à chasse d'eau. Donc c'est la latrine, la petite cabane, comme on connaissait il y a 100 ans en arrière chez nous, au fond du jardin, de temps en temps peut-être un peu plus près de la maison. Mais en tout cas, c'est le modèle standard, même des nouvelles maisons qui se construisent maintenant.
Sachant qu'il n'y a pas les mêmes conditions de température en Moldavie et au Burkina Faso, par exemple.
Disons qu'en Moldavie, quand j'ai posé la question comment on faisait à moins 20, on me disait on fait vite.
Ok, on peut comprendre. Loïc, bonjour. Vous, avec votre association, vous travaillez au Vietnam. Alors, au Vietnam, quelle est la situation ? Parce qu'on dit que c'est l'Afrique subsaharienne et l'Asie qui sont les deux continents les plus concernés par ce problème.
Alors, au Vietnam, de très grands progrès depuis un certain nombre d'années, puisque notre association, par exemple, a mis en place 15 stations de traitement de l'eau, donc très bien acceptées par les Vietnamiens, d'autant qu'ils sont des financiers potentiels, toujours dans ces programmes, notamment ils donnent 75% des financements des travaux, alors qu'en Afrique, en général, on ne reçoit rien des municipalités. Alors, quand vous avez mis en place des stations de traitement d'eau, immédiatement, les Vietnamiens construisent des latrines, et on ne peut même pas appeler ça des latrines, mais des toilettes. Et donc, progressivement, il y a un effet d'entraînement dans les quartiers, et progressivement, donc, les Vietnamiens, même en milieu rural, commencent à avoir des dispositions de latrines extrêmement hygiéniques, quoi.
Donc les mentalités changent et la volonté politique aussi.
Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que la croissance du Vietnam est exponentielle presque depuis un certain temps et que donc des progrès très très forts ont été faits dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Le seul inconvénient, c'est comme en Afrique, ils ne savent pas encore gérer et ils ne savent pas faire des contrôles judicieux pour qualifier par exemple leur eau de boisson. Ils ne font que des contrôles bactériologiques de l'eau que tous les mois au lieu d'en faire quotidiennement.
Ouais, donc il faut aller plus loin, mais disons qu'il y a
un gros progrès. Ouais.
Andrea Matusakova, vous qui travaillez donc pour la coalition Eau, hein, qui regroupe 29 ONG françaises qui travaillent sur ces questions, quelles sont les régions du monde avec lesquelles vous travaillez le plus ?
Souvent c'est en Afrique subsaharienne et dans les pays en voie de développement. La coalition Eau est un collectif qui en fait fait le travail de plaidoyer auprès des autorités locales et des autorités publiques pour ces questions de l'eau et de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans ces pays en voie de développement.
Et alors justement, est-ce qu'il y a une volonté politique qui émerge ? On entendait Loïc Monjon nous parler du Vietnam. Apparemment, c'est un peu plus compliqué en Afrique ?
Oui, alors il y a certains pays qui ont clairement défini l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme leur priorité. Par exemple, la Tanzanie, qui a fait de l'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement un secteur prioritaire de sa stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Dans ce cadre-là, on commence à avoir déjà des améliorations. Il y a à peu près 30-40 ans, la Corée du Sud a également donné la priorité à l'eau et à l'assainissement. Et aujourd'hui, on voit que la Corée du Sud, bon, pour d'autres raisons, se porte très bien. Donc, voilà. Mais il y a des pays pour lesquels ceci n'est clairement pas la priorité, alors que ça devrait l'être, parce que l'eau, c'est la vie. L'eau et l'assainissement, l'accès à l'eau et à l'assainissement est prioritaire pour la bonne santé aussi bien de la population que la santé économique du pays.
C'est pas du vent.
Pour nous écrire, c'est pas du vent@rfi.fr.
Vous écoutez donc C'est pas du vent sur RFI et nous parlons du fait que 2,6 milliards de personnes n'ont pas accès à des sanitaires décents dans le monde. Nous avons dressé donc un tableau de la situation. Maintenant, quelles sont les conséquences? Vous en parliez, Andrea, à l'instant. Les conséquences sont évidemment très importantes sur la santé. Loïc, bonjour. Vous êtes spécialiste de médecine tropicale et selon l'UNICEF, un gramme d'excréments peut contenir jusqu'à 10 millions de virus, 1 million de bactéries et une centaine de larves. Donc on comprend bien que les premières conséquences sont évidemment sur la santé des populations.
Oui, il existe de multiples causes de gastro-entérite, parce que on va parler des gastro-entérites, parce qu'il y a aussi les maladies liées à l'eau, mais d'une autre manière, notamment le paludisme et tout ça. On va donc rester dans le cadre des gastro-entérites ou diarrhées infectieuses. Donc, elles sont causées soit par des bactéries. Alors, les plus connues sont, des maladies, tout au moins. C'est la typhoïde, c'est le choléra, c'est les salmonelloses. Après, il y a aussi les parasites, les maladies dues aux parasites. Alors, peut-être dans le public, on connaît les ascaridias, les oxyuroses.
Oui, enfin,
ces maladies habituelles. Peut-être bien, peut-être non. Et puis ensuite, alors, ce qui est le plus important, sont les virus. Vous savez que le problème des virus est loin d'être résolu, même en Europe actuellement. Et donc, il existe des centaines de virus qui sont capables de provoquer des maladies diarrhéiques. Alors, il faut dire que ces maladies-là s'expriment ainsi. Alors, je cite quelques chiffres qui ne sont pas les chiffres habituels vus dans la littérature. Il y aurait donc 700 millions de diarrhées par jour dans le monde. D'ailleurs, un ami humoriste a calculé, je dirais un peu bêtement peut-être, et il dit donc que le volume des diarrhées correspond ainsi au débit minute d'eau des chutes Victoria sur le Zambèze, soit 40 mètres cubes seconde.
Bien sûr. Et voilà qui nous donne une vision claire des choses. Mais alors, ce qu'il faut bien, il faut bien faire le lien donc entre ces bactéries, comment elles arrivent jusqu'aux humains. Mais en fait, c'est souvent par l'eau ou par les insectes.
Oui. Alors, tout d'abord, quand même une dernière notion. Il y aurait environ, alors on ne sait jamais les chiffres exactement, mais il pourrait y avoir environ 5 millions de personnes qui décèdent tous les ans de gastro-entérite infectieuse. Ceci veut dire que c'est toute la population de la Norvège qui disparaît. Vous voyez, donc ça, mais bien sûr, ça se passe dans les pays du tiers-monde. Mais quand même, quand vous représentez ce fléau, c'est quand même extrêmement considérable. Les raisons sont assez simples. C'est parce que, je pense, il n'y a pas de plan global au départ. Alors, disons tout de suite, par exemple, il y a très gros problèmes d'urbanisme dans les villes. On n'a pas prévu du tout un urbanisme pour les populations déplacées qui viennent de la campagne. Et donc, chacun s'installe n'importe où. Et bien sûr, on ne trouve pas de conditions favorables en matière d'hygiène et d'assainissement. Mais il existe aussi, en fait, des problèmes de méthodologie. Au 19e siècle, il y a eu un mouvement extraordinaire en Europe, s'appelle le mouvement hygiéniste. Et tous ces gens-là, qui sont donc nos anciens, ont réussi à donner un schéma, des lois et des décrets concernant tous ces modèles, en fait, d'amélioration de la santé, qui sont premièrement la sensibilisation sanitaire de la population, deuxièmement l'hygiène individuelle et collective, troisièmement, l'assainissement, et au bout du chemin, vous avez de l'eau potable. Si on voulait bien suivre ce schéma, on arriverait à la situation que vous connaissez actuellement, puisque vous avez l'habitude de mettre vos ordures dans des poubelles, vous avez l'habitude de faire attention à la pureté de l'air, aux contaminations alimentaires, etc. Donc, il y a un gros travail à faire dans ce sens-là.
Alors, Thierry Imbert, en Moldavie, j'imagine qu'on constate aussi des maladies liées à cette absence d'assainissement.
Tout à fait, surtout chez les plus démunis et les plus faibles qui sont les enfants. Dans les écoles, ça arrive souvent que l'école doit fermer pour cause sanitaire, pour cause d'épidémie. Le ministère de la Santé décrète que c'est le problème majeur. C'est les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école dû aux maladies dites hépatites, dites diarrhées. La pneumonie dans une troisième priorité, qui fait que... tout le temps, on a le système des écoles qui bloque l'éducation des élèves.
Quel est le lien, Loïc Monjour, entre la pneumonie et le manque d'accès à l'assainissement?
Toute condition d'insalubrité entraîne des maladies. Par exemple, on pense toujours aux maladies dues à l'eau. Mais aussi, il y a de très, très nombreuses maladies qui sont dues aux détritus, aux ordures ménagères qu'on ne ramasse pas. Outre le fait de la présence de rats et d'insectes, vous avez là-dedans les moustiques, par exemple, qui transmettent la dengue, par exemple.
Est-ce que l'épidémie de choléra en Haïti, par exemple, était liée au problème d'assainissement ?
Alors, c'était un peu flou un moment, et parmi les chercheurs qui sont allés sur place, ils ont considéré bien sûr qu'il n'y avait pas eu de sensibilisation de la population, et on arrive toujours à ce problème culturel et traditionnel, que les gens aient des croyances, et après c'est compliqué de les faire changer de croyances dans un système, en fait, qui est un système d'épidémie aiguë. On aurait dû faire ce travail avant, mais c'est vrai, c'était compliqué aussi, parce que vous connaissez les incidents qui sont passés.
Mais quand vous dites de la sensibilisation, c'est dire qu'il aurait fallu expliquer aux gens comment se comporter pour aller faire leurs besoins, pas le faire n'importe où.
Exactement. Alors, dans la sensibilisation, il y a toujours quelque chose au départ qui est très important, je l'ai déjà signalé, c'est la connaissance du milieu culturel et traditionnel. Et vous adaptez donc votre sensibilisation sanitaire à ce milieu-là.
Alors, Idrissa Doucouré, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Loïc Monjour ? C'est difficile de faire changer les mentalités ?
Oui, tout à fait. Enfin, moi, je pense que nous avons conduit une étude il y a 2 ans de cela dans 8 groupes ethnolinguistiques en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, au Ghana, au Burkina Faso et au Mali. Et on s'est rendu compte que dans la langue locale, pour aller aux toilettes, ça veut dire derrière la maison. Ça veut dire que dans nos normes traditionnelles, on a toujours déféqué à l'extérieur de la maison. On n'a jamais pensé qu'il fallait rentrer dans entre 4 minutes pour déféquer.
Donc le mot utilisé dans les langues locales, c'est se traduit par derrière la maison.
Derrière la maison. Donc pour dire que c'était comme ça. Aujourd'hui, donc, il s'agit vraiment de changer les normes sociales. Et ce qui rend difficile les choses. Vous avez des ménages où on construit une latrine, mais le chef de ménage ou tout autre ont des difficultés pour laisser la maison, enfin, laisser les gens derrière et aller directement dans les toilettes, c'est une honte. Donc il y a réellement des problèmes de résistance socioculturelle auxquels également il faut faire face. Donc c'est pas seulement la technologie ou la disponibilité de l'infrastructure, mais également il faut vaincre les résistances socioculturelles.
Juste Herman Nancy, vous qui avec votre ONG Eau Vive sur le terrain au Burkina Faso essaye justement de sensibiliser, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est difficile de changer les comportements?
Ça c'est une réalité qu'on peut pas du tout occulter. Hein. C'est effectivement compliqué. Il y a des communautés dans lesquelles on peut pas réunir les gens pour leur parler d'assainissement, en tout cas pas pour leur parler de gestion de leurs excréments. Ça c'est une réalité. Il faut savoir comment le dire, il faut savoir comment en parler. C'est extrêmement sensible, ça reste tabou dans certains milieux. On n'indique pas, par exemple, vous pouvez pas demander où est-ce que je vais faire je vais aux toilettes. On n'indique pas l'endroit où c'est, on se cache pour le faire. Donc voilà, tout ça c'est des illustrations pour indiquer comment déjà aborder la question complexe au niveau rural. L'autre élément qui est important à signaler, c'est quand même l'absence de lien de cause à effet entre les comportements en matière d'assainissement, donc d'hygiène, et les maladies au niveau des populations rurales, qui ne relient pas du tout l'état de santé, les maladies diarrhéiques et toutes les maladies qui ont été citées tout à l'heure là, qui ne les relient pas nécessairement à l'absence d'assainissement. Alors c'est très difficile dans des conditions comme ça de réaliser que il faut apporter des solutions en termes d'investissement, en termes de réalisation d'ouvrages adaptés pour corriger cette situation. Donc voilà un peu quelques illustrations de la complexité hein, de la situation sur le terrain.
Est-ce que c'est tabou ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet difficile à aborder ?
C'est vrai, ça dépend des milieux, mais globalement, c'est un sujet qui est délicat à aborder. Ce n'est pas impossible, mais c'est délicat. Il faut quand même reconnaître qu'au cours des dernières années, les choses ont commencé à évoluer tout doucement. Mais on est encore très très loin, on part de loin et on est encore loin de l'objectif.
Je vous remercie beaucoup, restez sur RFI. On se retrouve dans quelques minutes après un bref rappel de l'actualité pour parler des solutions qui permettent de remédier à cette situation catastrophique. Et vous verrez, elles sont nombreuses et en plus souvent peu coûteuses. À tout de suite.